Je vais vous faire la lecture de Actes chapitre 16, versets 12 au 34. Actes 16, 12. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions qu'il se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle cria « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut !» Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs. » qui annonce des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Voilà, ici nous venons d'assister à la naissance de la première église en Europe, l'église de Philippe. Nous avons vu la semaine dernière comment Paul avait reçu une vision qui le réorientait dans sa mission. Et donc, à partir de cette vision, Paul, au lieu de passer à droite pour passer en Asie, il a pris à gauche. Et c'était l'Europe. Et ça a bien sûr bouleversé l'histoire du monde, puisque le christianisme est allé vers l'Europe. Mais dans ce chapitre, dans cette première église... En Europe, Luc choisit trois personnes à Philippe qui vont découvrir l'évangile, trois personnes qui vont connaître une transformation. On pourrait dire que c'est les trois premiers membres de l'église de Philippe. Il y a Lydie, il y a puis cette servante qui connaît une délivrance, et puis le geôlier. Et voilà, c'est Luc choisit ces trois personnes pour montrer l'effet de l'évangile dans des vies. Et j'aimerais comparer un peu ces trois personnes et puis tout simplement tirer quelques conclusions. Donc surtout comparer ces trois personnes qui sont finalement très différentes l'une de l'autre, mais ils vont être ensemble à la fin de l'histoire, ils vont être tous ensemble dans la même église avec le même sauveur. Si on pense à ces trois personnes, prenons d'abord les cultures différentes de chacun. chacune. Lydie, on apprend qu'elle vient de Thyatire. Thyatire, c'était une ville en Asie. La servante, elle, la servante qui avait un esprit de Python, quand on pense à ses attaches spirituelles et puis ses maîtres, c'est plutôt une grecque. Et puis le geôlier, lui, il est romain, puisque Philippe, c'est une colonie, on apprend ça en verset 12, Philippe, c'est une colonie romaine, et donc les postes de fonctionnaires étaient occupés par les Romains, et c'était l'esprit qu'on trouve dans les meutes un peu, nous qui sommes romains. Donc déjà sur le plan culturel, on a une Asiatique, une Grecque, et puis un Romain. Et puis regardez un peu les différences, on va dire, socio-économiques de chacun. En verset 14, on apprend que Lydie, elle est marchande de pourpre, et qu'elle vient de Thyatire, et qu'elle a une maison à Philippe. Et même une grande maison à Philippe, parce qu'elle va tout de suite recevoir toute l'équipe missionnaire. L'équipe missionnaire, maintenant, c'est Paul et Silas, mais aussi Luc. Vous avez vu, on commence à parler de nous. Donc Luc est dans l'équipe maintenant, et puis Timothée qu'ils ont récupéré en début de chapitre 16. Donc ils sont une équipe missionnaire, et elle va les loger dans sa maison, et puis on trouve plus tard que même toute l'église se trouve dans cette maison. Donc elle a une assez grande maison, et aussi ce détail qu'elle est marchande de pourpre venant de Thyatire. Thyatire était connue pour cette teinture de pourpre qui était très recherchée. On en faisait des vêtements très très chers, très chics. Et donc elle vient de Thyatire, elle a une maison à Philippe, elle gère, on va dire, une entreprise de mode. Donc aujourd'hui on pourrait dire qu'elle, Lydie, serait une femme d'affaires dans le domaine de la mode, travaillant pour une grande marque, avec une maison à Paris, une maison à New York, qui réussit bien ses affaires. Donc quelqu'un de très aisé, on va dire. Mais vous la mettez à côté de la servante, c'est tout l'opposé sur l'échelle, on va dire, socio-économique. On dit servante ici, mais c'est plutôt une esclave. Elle a des maîtres qui profitent d'elle, qui l'exploitent. Elle est une voyante en quelque sorte par cet esprit de Python, et cela apporte beaucoup d'argent. La voyance encore aujourd'hui est assez rentable, mais cette voyance apporte beaucoup d'argent, mais elle n'en touche rien, tout part à ses maîtres, et c'est eux qui sont fâchés quand elle ne peut plus donner ses oracles et ses divinations. Donc elle, c'est une esclave, on l'exploite, on profite d'elle, et elle fait penser à encore aujourd'hui beaucoup de filles, beaucoup de femmes dans le monde qui, de manière tragique, vivent un esclavage, que ce soit physique ou sexuel ou autre, totalement exploité, donc vraiment en bas de l'échelle sociale. Et puis le geôlier, il a peut-être servi dans l'armée romaine pour ensuite occuper ce poste. En tout cas, il n'a pas fait de grandes études. Lui, il touche le SMIC. Il a un logement de fonction, peut-être dans l'enceinte de la prison. Donc ça va, une situation convenable, sans être particulièrement riche ni particulièrement pauvre. Donc déjà des différences à ce niveau-là. Et puis maintenant, comparons un peu l'arrière-plan spirituel ou le vécu spirituel de chacun. Là encore, c'est quand même assez différent. Lydie, cette femme Lydie, on voit, elle a une crainte de Dieu. Elle a une crainte de Dieu, c'est ainsi qu'on la décrit. Puis on la trouve dans cette réunion de prière hors de la ville, vers une petite rivière. Ce détail nous signale qu'il n'y a pas de synagogue. Donc à Philippe, il n'y a pas une grande communauté juive ou d'hommes juifs. Donc il y a quelques femmes qui se réunissent en dehors de la ville le jour du sabbat pour prier, et Lydie en fait partie. Mais ça c'est fort, parce qu'elle n'est pas forcément juive d'origine, elle vient de Thyatire. C'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie, donc elle ressent le besoin d'aller prier d'après la manière juive le sabbat. et qu'elle fait même un effort d'aller trouver un petit lieu de prière, il n'y a pas beaucoup, quelques femmes, c'est que visiblement elle recherche quelque chose, il y a une piété, une crainte de Dieu, mais elle recherche quelque chose de plus. Elle est bien dans sa peau et pourtant on dirait qu'il y a un vide pour qu'elle se donne tant d'efforts pour prier. Même nous, c'est étonnant de voir quelqu'un si réussi, si bien placé, voilà, aménager une partie de sa vie pour la prière ou pour une démarche religieuse. Donc, son arrière-plan est assez parlant. Mais après, à côté d'elle, il y a la servante. La servante avec cet esprit de puritain, quel est son parcours spirituel à elle? C'est tout à fait autre. Elle est, on va dire qu'elle est carrément possédée par un démon. Elle a un esprit de python. Python, dans la mythologie grecque, c'était un serpent. Un serpent avec toute l'image que cela nous évoque, si on connaît notre Bible, le serpent. Et puis, ce serpent, il gardait l'oracle de Delphes, le temple d'Apollon. Et là, on venait à cet oracle pour justement avoir des précisions sur l'avenir, de pouvoir prédire l'avenir. Donc, cet esprit de Python était un peu un représentant de tout ça. Et elle, apparemment, elle a une certaine capacité de voyance ou de divination qui nous évoque toutes ces puissances occultes. Donc, ce qui est fort quand on passe à son état, son vécu spirituel, c'est que, quelque part, elle connaît la vérité, mais elle en est très loin. Parce que, on la voit, elle dit, cet esprit en elle, elle suit ces hommes, elle criait, certainement de manière un peu gênante, un peu bizarre, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Dans la phrase elle-même, il n'y a rien à redire. Ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. C'est la vérité, c'est biblique tout ça. Mais Paul a reconnu qu'il y avait quelque chose de diabolique dans tout ça. Donc, elle semble connaître la vérité, mais elle est esclave du mal et des puissances occultes. Et d'ailleurs, on retrouve ça assez souvent, ceux qui sont allés très loin dans le mal et dans le péché, souvent ceux-là, ils reconnaissent la vérité. Et eux, ils pourront dire ce qui est mal et ce qui est bien. Eux, parfois, ils savent où se trouve la lumière et la vérité, mais ils ne peuvent pas se changer eux-mêmes, ils sont vraiment esclaves, ils sont liés par le mal, par le péché. Donc ça, c'est un peu son vécu spirituel. Et puis, ce geôlier. Où en est-il spirituellement parlant? Ben, on ne sait pas grand-chose, mais on pourrait dire que lui, il s'en fiche un peu. Il n'y a ni crainte de Dieu, il n'y a pas un côté diabolique non plus. En tout cas, on voit qu'il est c'est un homme assez endurci, assez dur. Il n'a aucun respect ou tendresse pour ses missionnaires, pour ses pasteurs qui passent par là. On voit que les maîtres de l'esprit de Python, quand Paul a chassé le démon, il provoque une émeute. Et un peu pour le provoquer, il joue la carte raciste et ils disent voilà, ces juifs, ils viennent et ils nous disent de faire des choses que nous, les Romains, ne peuvent pas faire. Et donc ils sont battus, on les apporte en prison et puis on dit au geôlier, bon, faut que ta mission c'est de les garder sûrement. Mais quand on regarde bien, donc le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Si vous les s'agissez juste de les garder sûrement, il suffit de les mettre dans la cellule et tourner la clé. Et ils sont bien gardés. Mais là il va plus loin. Et il met les pieds au cep. Et à l'époque, c'était une forme de torture. On écartait les pieds pour les faire entrer dans ces ceps. Donc, on trouve chez cet homme, voilà, un endurcissement où certainement il se trouve dans le même esprit de cette émeute, avec des préjugés contre ces chrétiens. voulant leur faire souffrir en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est cet homme, son vécu, son parcours spirituel, préjugé contre les chrétiens, un peu raciste sur les bords et assez dur et fermé contre les choses de Dieu. Et enfin, dans notre comparaison de ces personnes, nous pouvons voir, c'est ce que je trouve fort, nous pouvons voir que chacun est touché de manière différente par le message de Dieu, par le message de la Bible. Prenons d'abord Lydie. Comment reçoit-elle l'Évangile? Comment est-elle touchée? Comment est-ce qu'elle arrive à vouloir suivre Dieu? Ben, pour elle, ce jour-là, ce sabbat-là, c'était pas une prédication, pas une étude de l'apôtre Paul. Le verset dit que Paul expliquait, et puis le Seigneur ouvrit son cœur et elle était attentive à ce que Paul disait. Donc, elle était attentive, c'est-à-dire elle cherchait à comprendre et elle a compris, puisque le Seigneur lui a ouvert le cœur. Et Paul a certainement dû prendre les textes de la Bible et expliquer que Jésus était venu pour les accomplir. Elle, puisque visiblement elle pratique la prière le sabbat, elle doit connaître un peu l'Ancien Testament, et donc Paul a pu expliquer par une étude biblique qui était Jésus, pourquoi il est venu, ce qu'il a fait, et finalement qu'il était le sauveur, qu'il était la solution. Et voilà, le verset dit que son cœur s'est ouvert, elle a compris, elle a saisi, tous les morceaux sont mis en place dans sa tête, et elle a dit, juste là, elle a dit, ben c'est ça, je comprends, j'accepte, je crois, on procède au baptême, parce que tout est clair. Donc elle, c'était suite à une étude biblique, on va dire, qu'elle a cru, elle a été baptisée. Maintenant, la servante. Vous voyez bien, c'est pas le genre de personne qui va venir à l'église, qui va s'asseoir et écouter attentivement une étude biblique de la part de l'apôtre Paul. C'est pas quelqu'un qui va vraiment chercher à comprendre ou qui va poser des questions pertinentes. Elle est esclave. Mais quelque part, elle a pu dire, ces hommes, elles annoncent la voie du salut. Ils sont serviteurs du Très-Haut. La vérité est là. Mais elle est liée elle-même. Donc c'est pas une étude biblique vraiment qu'il lui faut, elle, c'est une manifestation de puissance, c'est la puissance de Dieu qui va entrer dans sa vie. Et Paul qui dit, je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors d'elle. Et là, voilà, là elle est maintenant, elle est libre. L'Esprit de Dieu confronte l'Esprit de Python, elle est libérée. Et elle qui connaissait la voie du salut, maintenant, enfin, elle est libre de le suivre. Et je veux bien croire qu'elle s'est attachée à ces chrétiens, tout comme partout dans les évangiles. Quand Jésus chassait les démons, les gens étaient prêts à le suivre, à l'écouter, à être reconnaissants pour ce qu'il a fait. Il y a une véritable délivrance. Voilà, donc pour elle, c'était vraiment une puissance, une intervention, un miracle qui l'a délivrée pour qu'elle puisse comprendre et connaître le salut. Et puis ce geôlier, comment lui il a été touché? Ben pour lui c'est encore autre chose qu'il lui faut. Hein. Lui ça va être pas un moment de crise. On a déjà vu, c'est pas quelqu'un, si on l'invite à l'église, c'est pas sûr qu'il vienne, et c'est pas sûr qu'il se lève un dimanche matin pour ça. Et c'est pas sûr qu'il écoute attentivement ce que dit le prédicateur. C'est un homme et comme ça, ça l'intéresse pas tout ça. Mais quelque chose a quand même l'a touché et c'était ce moment de crise parce que tout le monde savait à cette époque un Romain, là, c'était la loi partout dans l'Empire romain. Si on était confié à un prisonnier et que le prisonnier s'échappait, eh ben c'est ta vie qui en répondait. Donc, là, ils pensent que les prisonniers se sont évadés. Et donc, il est sur une grande crise dans sa vie, hein, et donc il est sur le point de se suicider. Et lui, qu'est-ce qui le touche à ce moment? Eh bien, c'est la réaction radicale de Paul et de Silas. Au moment où ils auraient pu échapper, ils restent. Et donc, ils peuvent dire, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Et pour lui, cela devait être fort, parce que lui, lorsqu'il avait Paul et Silas entre ses mains, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il avait leur vie entre ses mains, eh bien, il a été dur, il a été méchant, il les a torturés, même allant au-delà de son devoir, presque, et il les a fait du mal. Et maintenant que la situation est renversée et que eux, Paul et Silas, ont sa vie entre leurs mains et ils pouvaient se venger, ils pouvaient rendre le mal pour le mal, eh bien, au lieu de faire ça, ils restent, ils surmontent le mal par le bien. Et là, c'est touchant, là, c'est bouleversant pour un homme comme ça. Et c'est ça qui provoque cette ouverture, ce changement. Et là, il est prêt à écouter. Là, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc, on a comparé toutes ces personnes. Mais pensez un peu, ces trois personnes ne se seraient jamais rencontrées dans la vie. Ces trois personnes ne seraient jamais côtoyées. Ces trois personnes n'auraient jamais passé du temps ensemble. Lydie, marchande de pourpre, une esclave exploitée par ses maîtres, et puis un geôlier endurci. Ils n'auraient jamais passé du temps ensemble, et pourtant Dieu les sauve, Dieu les transforme, l'Évangile entre dans la vie de chacune de ces personnes, et c'est l'église de Philippe. Ça devient l'église de Philippe. Et c'est ça qui est tellement beau, c'est tellement fort. Ça veut dire que l'Évangile est pour tous. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que la foi chrétienne, c'est pour un certain type de personne ou de personnalité. Hein. C'est régulièrement que j'entends quelqu'un dire, vous avez la foi, c'est bien pour vous, ça vous apporte quelque chose. Mais derrière cette remarque, il y a toujours l'idée que voilà, la foi, c'est pour un certain type de personne. Peut-être des personnes faibles d'esprit ou simples d'esprit, ou peut-être des personnes en crise, ou peut-être des personnes en manque de quelque chose, ou des personnes fragiles. Voilà, on a toujours cette pensée que la foi est réservée pour un certain type de personnes. Mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas uniquement pour les gens en crise, c'est pour Lydie qui réussit très bien. Ce n'est pas juste pour les personnes qui ont un penchant pour le côté pieux et prière. Hein. C'est vrai, on trouve une femme qui aime prier avec d'autres femmes. On dit c'est normal qu'une personne comme ça trouve la foi. Mais un homme endurci qui aime torturer, lui aussi, il va saisir l'Évangile. Donc, voilà, on ne peut pas dire que c'est réservé pour un certain type de personne ou de personnalité. On voit ici que l'Évangile touche la vie de chacun. Et ça montre aussi que chacun de ces personnes a besoin d'un salut, a besoin d'un sauveur. Chacune de ces personnes, finalement, a été délivrée d'un esclavage. La servante de Python, on voit bien son esclavage à elle. Et sa délivrance, elle est évidente. Mais les autres aussi, n'étaient-ils pas esclaves de quelque chose? On peut être esclave du monde professionnel, on peut être esclave de la réussite. On peut connaître réussite sur réussite et devenir esclave de ce besoin de réussir, de monter plus haut, de gagner beaucoup d'argent, de sacrifier vie et famille pour l'avoir. Même le geôlier, on pourrait dire qu'il est esclave de quelque chose. Parce que là, il est prêt à se suicider. Quand il apprend que les prisonniers sont, que les portes sont ouvertes, il va se suicider. C'est un geste extrême. Et on peut regarder dans la Bible, il y a même d'autres cas où par exemple, la résurrection de Jésus-Christ que nous avons célébré la semaine dernière, mais il y a d'autres cas où les prisonniers s'échappent. Parce que dans le livre des Actes et tout ça, il y a d'autres cas, et c'est pas systématique que les soldats romains se suicident. parfois ils font face à la punition, ils font face à la justice pour voir ce qui va se passer. Donc c'est pas systématique que tout le monde se suicide. Donc pour lui, qu'il est prêt à faire jusqu'à là, c'est que c'est fort. Pour lui, sa raison de vivre, c'est accomplir son devoir, être un bon geôlier. Et quand il n'a plus ça, eh ben, il n'a plus une raison de vivre et il se tourne vers le suicide. Et ça, c'est un esclavage. C'est un esclavage. Tellement devoir réussir à accomplir son devoir. Et puis voir que de temps en temps, on ne l'accomplit pas, ou ça nous échappe. Et dans ces moments de penser que la vie n'a plus de sens et on n'a aucune raison de vivre, c'est que on est esclave de quelque chose. Ce matin, j'ai relu ce passage et j'ai remarqué, je crois, quelque chose. Si Dieu a ouvert les portes de la prison, ce n'était pas pour libérer les prisonniers, c'était pour libérer le geôlier. Parce que juste après, on n'a pas lu, mais dans le verset 35, il dit « Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes !» Donc, de toute manière, le lendemain, ils allaient être relâchés. Ça, c'était déjà décidé. Même, ce n'était pas en fonction du tremblement de terre ou tout ça. Les lecteurs commencé à se rendre compte que ce qu'ils avaient, c'était pas juste, c'était pas dans les lois romaines, tout ça. Donc, le lendemain matin, en tout cas, Dieu le sait, le lendemain matin, c'était prévu qu'ils soient libérés. C'est pas comme l'apôtre Pierre, par exemple, qui, le lendemain matin, c'est prévu qu'il soit exécuté. Donc là, il y a une délivrance, l'ange le sort de la prison et Pierre a la vie sauve. Mais Paul et Silas, ils allaient être relâchés de toute manière. Mais il y a toutes les portes qui se sont ouvertes. C'est pas pour que eux ils sortent, c'est pour que le geôlier sorte de sa perdition, de son esclavage et découvre le salut. Et vous voyez, chacune de ces personnes est transformée, radicalement transformée. C'est ça que fait l'Évangile. Toutes ces personnes très différentes, mais tous libérés et tous transformés. Pour la servante, la transformation est évidente et radicale. On apprend que dès le verset 19, elle ne pratique plus. C'est fini, sa divination. C'est pas comme si elle retente la chose ou qu'elle peut encore gagner un peu d'argent. Non. C'est ça qui est si fâcheux pour ses maîtres, c'est qu'elle est plus bonne à rien, parce que maintenant elle est transformée, elle est plus dans cette voie-là, elle est dans une autre voie. Donc elle transformée de manière radicale, le geôlier lui transformé aussi de manière très forte, sa transformation c'est assez évident à voir parce que lui qui les a fouettés, ben c'est lui qui les lave et pense leur plaie. C'est assez beau de voir ça. Un homme qui maîtrise les techniques de torture, on le retrouve le lendemain, les tendres soins d'un infirmier. Donc ça c'est une transformation. Est-ce que Lydie, elle, connaît une transformation? C'est une femme gentille, pieuse, craignant Dieu. Peut-être on dit, ça va pas changer grand-chose dans sa vie. Mais on apprend au verset 15 quand même que lorsqu'elle fut baptisée et à sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et puis en verset 40, en fait, cette maison de Lydie, vraisemblablement une grande maison, a servi de salle d'église. L'église de Philippe s'est réunie dans la maison de Lydie parce qu'en verset 40, jusqu'à la fin, quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc les frères, maintenant, il y a déjà des chrétiens qui se rassemblent dans cette nouvelle église à Philippe qui se réunit dans la maison de Lydie. Ça veut dire que chez Lydie, Lydie accueille chez elle les frères maintenant. C'est qui les frères? Mais les frères, en tout cas, sous peu, les frères, ça va être le geôlier et sa famille. Les frères, ça va être cette servante. Je veux bien croire que cette servante s'est joint à cette église, à ces chrétiens. Donc, dans sa maison, la maison de Lydie, on a une ancienne esclave, on a un geôlier, on a tout ça. Et ça, vous ne voyez jamais ça. Même à Toulouse, même à notre époque, Et encore moins dans le passé, vous ne voyez pas la noblesse qui invite les esclaves pour manger ensemble, demeurer ensemble, chanter ensemble. Qu'est-ce qui peut produire une telle chose? Eh ben, ce qui produit une telle chose, c'est Jésus-Christ, c'est le salut en lui. C'est quand chacun se sait sauvé par Jésus-Christ, là, voilà, on est ensemble dans une église. Et c'était ça la force de l'église dans le livre des Actes. Cette unité, cet amour entre des personnes très très différentes qui témoignaient de la puissance de l'évangile. Et finalement, cette petite phrase, peut-être on l'apprécie un peu mieux, verset 31, la simple réponse de Paul et Silas à la grande question, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Leur réponse, une réponse assez connue, hein, c'est une des phrases les plus citées de ce livre des Actes, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Maintenant, on voit que voilà, toute la puissance est dans cette phrase et dans ce sauveur Jésus-Christ, parce que ce Jésus-Christ-là, il fait ce que Python ne ferait jamais, il fait ce que un CDI ne ferait jamais, il fait ce que des vêtements chics très à la mode ne feront jamais, il sauve, il délivre, il pardonne, il rassemble, il met en nous un amour pour les autres. Et donc, oui, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est le message puissant de la Bible. Et puis, quand il sauve, il transforme pour le meilleur. C'est ça qui est merveilleux ici. Il y a des vies vraiment transformées. Alors, que ça soit ainsi dans nos vies, dans notre Église, et que des vies soient transformées par une rencontre avec Dieu, ce Dieu si bon, ce Dieu si grand, ce Dieu si merveilleux. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier.